Merci d'être avec nous en tout cas, merci d'être avec nous et en osmose. Nous avons plusieurs fois par an, par mois même, des rendez-vous avec nos amis Rosy Crucien, l'Ordre de la Rose-Croix et l'Université Rose-Croix Internationale. Et aujourd'hui, on retrouve le docteur Ibrahim Ben Sassi qui est avec nous, qui est justement docteur en médecine, conférencier URSI et qui doit être là. Coucou, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah bah vous êtes là, ça me rassure.
Oui, je suis là, merci de m'inviter.
Je suis toujours un petit peu inquiet avec les rendez-vous Skype, on a des fois des surprises. Docteur Ben Sassi, vous êtes conférencier URSI, hein, donc vous donnez des conférences régulièrement pour l'Université Rose-Croix Internationale.
Absolument.
C'est quoi le thème de vos conférences en général? La santé?
Ah bien, oui, bah, mais donc, d'abord il faut savoir que l'Université Rose-Croix Internationale est une université qui est... parrainé par l'Ordre de la Rose-Croix à Morc, hein, et dans lequel il y a plusieurs domaines d'études, de réflexion, hein, et moi je fais partie de la section médecine de cette Université Rose-Croix Internationale qui regroupe un certain nombre de chercheurs, de professionnels, chacun donc spécialiste dans son domaine. Et qui propose effectivement des conférences, des séminaires, des livres, des interviews, hein, comme aujourd'hui, et également des petites vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur d'autres plateformes.
Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion et envie de parler avec vous d'un sujet un peu spécial, l'alchimie et la santé. J'avoue que c'est deux termes qu'on aurait pas mis ensemble d'habitude, parce que l'alchimie, c'est quand même un peu ésotérique, avec un côté, on transforme le plomb en or, et la santé, c'est quand même beaucoup plus, comment on appelle ça, scientifique, quoi. On est plus dans des choses bien concrètes.
Alors effectivement, on peut penser que ce sont deux domaines complètement différents, donc à savoir l'alchimie d'une part, donc avec ce que l'on en connaît, c'est-à-dire la transformation des métaux vils, hein, tels que le plomb par exemple ou l'étain, dans d'autres métaux, à savoir l'argent plus noble, hein, tels que l'argent ou l'or. Ça, c'est ce que l'on connaît de l'alchimie. Mais l'alchimie, c'est beaucoup plus profond que ça. Et effectivement, on va se rendre compte que il y a des liens avec ce domaine. Bon, que vous avez considéré comme scientifique, mais en fait la santé n'appartient pas au domaine scientifique, mais si je peux dire, c'est du domaine public. Hein, donc, d'ailleurs, une des très grandes difficultés, c'est d'avoir une approche la plus générale, la plus ouverte possible en ce qui concerne la santé, de même que pour l'alchimie. Et on va voir que on peut joindre les deux.
C'est sûr qu'en ce moment, avec ce qu'on parle de la santé, on parle toujours du conseil scientifique, et donc on associe quand même pas mal santé et science. Mais vous avez raison,
oui.
C'est autre chose. Même,
oui, mais l'alchimie, c'est une science également. Mais on va voir que la santé, c'est du domaine qui dépasse le domaine scientifique.
Alors, la recherche de la santé, la démarche alchimique, est-ce qu'il y a des liens entre les deux, donc? J'imagine, puisque c'est le thème de votre discussion.
Oui, tout à fait. Donc, alors, ce que l'on sait moins, donc, en ce qui concerne l'alchimie, c'est que les alchimistes du passé ne faisaient pas seulement les transformations des métaux vils en métaux beaucoup plus nobles. Ils étaient aussi à la recherche de la panacée. Hein, de ce remède miracle qui pouvait guérir toutes les pathologies, toutes les maladies. Cette panacée universelle, et également, il recherchait l'élixir de longue vie. Et il s'adonnait aussi, d'une part, à l'alchimie beaucoup plus subtile, donc au niveau intérieur, au niveau psychologique, donc au niveau mental et émotionnel. Et par ailleurs, et d'une manière mystique, plus secrète, il pratiquait ce que l'on appelle l'alchimie spirituelle. D'ailleurs, la signification cachée du laboratoire dans lequel œuvraient les alchimistes est à la fois composée du mot labor et du mot oratoire. Le mot labor, que l'on retrouve également dans le mot latin labora, qui veut dire travailler, et oratore, qui veut dire prier. Donc on voit bien qu'il y a les deux composantes, à la fois travailler sur la matière, mais également prier, c'est-à-dire s'adresser à sa dimension donc animique, sa dimension intérieure.
Spirituelle, quelque part.
Alors oui, spirituelle, et on va définir d'ailleurs, hein, si vous voulez bien, ce que l'on entend par spirituel.
Eh bien, définissons.
Alors d'abord, oui. Disons oui, on peut définir, parce qu'on va voir qu'il y a les différents domaines. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc on parlait de l'alchimie mentale, de l'alchimie émotionnelle, à part là, donc bien sûr l'alchimie matérielle, l'alchimie mentale, l'alchimie émotionnelle, mais également cette alchimie spirituelle. Mais il est à noter que la pratique de l'alchimie était universelle. Elle n'était pas seulement pratiquée en Occident. Et c'est là où on va voir que le lien entre l'alchimie et la santé, pour ne pas dire la médecine, mais donc en Orient, par exemple, en Chine impériale ou en Inde, il y avait des alchimistes. Par exemple, les alchimistes chinois faisaient une distinction entre l'alchimie matérielle, l'alchimie dite extérieure, et par opposition avec l'alchimie intérieure. Cette alchimie extérieure va céder progressivement la place à l'alchimie intérieure, parce qu'elle va s'inscrire dans le cadre de ce qu'ils considéraient comme étant l'enseignement de la voie, ce qu'ils appellent donc le Tao, et qui se fonde d'ailleurs sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose. Donc un concept qui rejoint d'ailleurs celui des alchimistes occidentaux, la notion de pierre philosophale. Ailleurs, en Inde, par exemple aussi, l'alchimie remonte à la période très ancienne des Védas, c'est-à-dire dans l'ensemble des écrits sacrés de l'Inde antique. Et cette discipline tire ses origines de l'Ayurveda, que vous connaissez peut-être, qui est une forme de médecine traditionnelle, d'approche plutôt holistique et dont le but était triple. D'une part, le maintien de la santé, la guérison des maladies et également la réalisation de soi. Et c'est là où on rejoint la dimension spirituelle.
D'accord. Sachant que pour l'OMS, hein, comme vous nous l'aviez rappelé régulièrement, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie.
Alors, on a essayé d'avoir une approche, effectivement, on a essayé d'avoir une approche qui rejoint celle des orientaux, avec cette définition qui me semble intéressante pour notre propos, hein, qui est la définition qui a été donnée par l'OMS, et qui est la suivante, je la rappelle, hein, qui est la santé, c'est un état de complet bien-être au niveau physique, au niveau mental et intellectuel, et au niveau social. Et elle ne consiste pas, donc la définition rajoute, elle ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc on peut voir que là, ce n'est pas parce qu'on n'est pas malade, qu'on ne ressent aucune souffrance, aucune perturbation, qu'on est en bonne santé. Et d'autre part, ce n'est pas parce que nous sommes atteints d'une infirmité, d'un handicap, que nous ne sommes pas en bonne santé. C'est là toute la subtilité, justement, de cette définition, et qui rejoint les notions alchimiques.
D'accord. Alors justement, en parlant d'alchimie, comment on pratique l'alchimie dans le domaine de la santé ?
Alors,
pour être en bonne santé, j'imagine, ou pour maintenir notre corps et notre esprit en bonne santé, quoi.
Alors justement, pour qu'on puisse assez simplement définir ce qu'est l'alchimie dans le domaine de la santé, il faut également d'abord voir que l'être humain n'est pas seulement dans un domaine matériel, physique, dans une relation sociale, mais également qu'il a une dimension spirituelle. Et les grandes écoles traditionnelles, par exemple comme la Morque, hein, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, définit l'être humain sur trois plans de manifestation. Le plan physique, qui va comporter donc le corps et toute sa physiologie. La dimension psychologique, hein, avec ses deux composantes mentales et émotionnelles. Et la dimension spirituelle. À partir de là, nous pouvons aborder l'alchimie au niveau physique, l'alchimie au niveau psychologique et l'alchimie au niveau spirituel.
Alors, l'alchimie physique, c'est le corps lui-même, quoi. Le corps, nos organes.
Alors, c'est ça. L'alchimie physique, c'est l'alchimie matérielle. C'est-à-dire, je rappelle, hein, donc la notion que l'on a de l'alchimie, c'est-à-dire c'est la transformation des métaux vils en métaux nobles. Eh bien, dans l'application que l'on pourrait faire au niveau du physique, c'est quasi la même. C'est-à-dire transformer ce corps de chair, ce corps qui a plutôt tendance à des douleurs, en un corps sain, en un corps qui respire la santé, si je puis dire.
En pleine forme.
Comment ?
Un corps en pleine forme.
Un corps non seulement en pleine forme, mais avec un bon fond. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ces deux composantes. Et effectivement, pour maintenir la santé du corps, ben, il faut d'abord veiller à ne jamais introduire en soi des choses nuisibles. Donc, de lui apporter pareil, des métaux vils, hein, mais plutôt de lui apporter des substances nobles. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement parce que en introduisant donc des choses nuisibles, il va y avoir des troubles de l'harmonie. Parce que celui qui
chose
se
nuisible,
laisse
ça veut dire
aller
quoi ?
Abuser, pardon ?
Le chose nuisible, c'est quoi ? Genre le tabac
Par exemple, c'est ça. Donc les substances nocives, hein, telles que le tabac, l'alcool, les drogues, etc.
D'accord.
Donc à partir du moment où ces substances sont introduites à l'intérieur de l'organisme, elles vont perturber l'harmonie du corps. Il faut donc connaître les effets de ces substances et faire des choix par l'utilisation positive du libre arbitre et pertinente de notre raisonnement.
Parce qu'en médecine,
par ailleurs,
par exemple, en médecine, par exemple, certains médicaments, on peut les considérer un peu comme des trucs toxiques qu'il faut prendre à petite dose pour que ça fasse du bien. Enfin, c'est un peu compliqué là, non ?
Il faut savoir que la distinction, vous voyez, au niveau de l'alchimie matérielle, la distinction entre le plomb et l'or, au niveau anatomique, elle est minime. Hein, au niveau donc physique, donc de l'atome,
la molécule,
la différence entre les deux ne dépend que de quelques électrons qui se trouvent sur la couche externe de l'atome. Vous voyez, ça, c'est une substance qui peut être considérée comme nocive à certaines doses peuvent devenir bénéfiques dans d'autres doses. Par exemple, vous savez que en homéopathie, bien souvent, on utilise des substances toxiques, dangereuses, allergisantes, pour guérir les personnes qui sont atteintes de perturbations dues à la substance mère. Donc, vous voyez que la même substance peut être donc nocive, mais bénéfique.
Ça rappelle.
Donc, faut-il savoir l'utiliser correctement.
C'est la citation. C'est la citation de Paracelse, je crois, non ?
C'est ça.
C'est la dose qui fait le poison, c'est ça.
Exactement.
Tout peut être un poison. C'est vrai que même de l'eau, si on boit 500 litres, on peut finir par en mourir, quoi.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est le fait de s'intoxiquer, en fait, d'introduire ces substances dangereuses, ces substances nocives, soit en qualité, soit en quantité, eh bien, c'est une agression pour notre corps physique, pour notre véhicule. Et donc, on peut considérer que c'est un empoisonnement qui va affecter sa physiologie, sa structure. Et on peut considérer que s'intoxiquer va à l'encontre du principe noble qui est celui de la non-violence.
D'accord. Et ça va dans les deux cas, c'est-à-dire que, bon, on parlait de drogue ou d'alcool, etc. Mais il y a aussi des compléments alimentaires, des choses comme ça qu'il faut peut-être pas en abuser, même si c'est marqué naturel dessus, quoi.
Exactement, tout à fait. Parce que c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que les substances qui paraissent donc nobles, hein, donc très très belles, agréables à regarder, à goûter, et bien peuvent être dangereuses. On sait que, par exemple, certains compléments alimentaires peuvent provoquer des allergies sévères. Ou d'autres aliments auxquels on prête des vertus anticancéreuses, par exemple, peuvent générer des troubles qui peuvent causer des pathologies parfois très très graves.
D'accord. Alors,
par ailleurs,
oui.
Alors, il n'y a pas que les substances, parce qu'il y a aussi la manière de voir son corps. Dans cette alchimie physique, il faut également accepter d'avoir un corps qui n'est pas forcément parfait. Avec les critères donc modernes, également d'accepter hein, le vieillissement, hein, et puis aussi d'accepter l'échéance que le corps physique va connaître à un moment ou à un autre de son évolution, c'est-à-dire la mort.
Mais ça on a du mal.
Vivre. Comment ?
Et ça, on a du mal dans notre société, la vieillesse, la mort, tout ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Quoi.
Le vieillissement, la maladie d'abord, le handicap. Même ce qu'on considère comme étant des tares, effectivement, cette échéance qui est la mort, c'est très difficile à accepter au niveau mental et au niveau même donc relationnel. Mais il faut vivre avec les lois de la nature. Et pour ça, il faut les connaître, ces lois de la nature. Et c'est des lois simples, hein. C'est une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène respiratoire, un bon sommeil, un peu d'exercice physique. Hein. Et bien tout ça, ce sont des éléments, des outils, hein, donc alchimiques entre guillemets, que l'on peut utiliser au quotidien pour maintenir, respecter ces lois de la nature. Et enfin, pour une approche mystique, hein, je disais tout à l'heure que les alchimistes aussi avaient cette dimension mystique, il faut considérer le corps comme une parfaite création divine et le vivant reflet du plus grand des miracles. Et aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent que s'incliner devant la beauté et la perfection de ce corps, de la matière et du corps physique. Pourquoi ? Eh bien, parce que les alchimistes et derrière eux tous les mystiques donc considèrent que le corps est le véhicule donc d'une âme, donc d'une dimension spirituelle. Et dans cette optique, on pourrait transformer le corps physique en un temple. Voilà, le mot temple, je pense que tout le monde peut ressentir et comprendre ce que ça peut signifier. Donc cette dimension beaucoup plus aurique, hein, noble, hein, de ce corps, et on doit apprendre donc non seulement prendre soin de ce corps physique, hein, sans en faire bien sûr un objet de culte, hein, mais un sujet de méditation.
D'accord, c'est l'idée quand même non plus. On ne rentre pas de choses souillées dans un temple. Voilà, c'est un peu cette idée là, quoi.
Exactement,
on sacralise le corps, quoi.
On sacralise le corps, absolument. On lui donne une dimension sacrée. Donc ça nous permet de transformer ce corps physique qui est un peu lourd parfois, un peu difficile à faire bouger, ou ses douleurs, ou de ressentir ce vieillissement, hein, d'année en année. Soit sur soi, soit sur les autres. On le ressent d'ailleurs beaucoup plus chez les autres que sur soi, ce phénomène de vieillissement. Mais également, donc, transformer donc, cette vision du corps en une vision beaucoup plus sacrée, avec cette notion du temple.
D'accord. Alors, on a parlé d'alchimie physique, mais vous m'avez parlé tout à l'heure d'alchimie mentale. Comment on peut définir cela ? C'est ce qui se passe dans la tête ?
Donc la dimension de ce monde, donc la dimension donc physique matérielle qu'on vient de voir. Maintenant on va passer à la dimension psychologique avec ces deux composantes, hein, la dimension mentale, la composante mentale et la composante émotionnelle. Alors la composante mentale, eh bien, donc intéresser les pensées dans cette démarche alchimique. Eh bien, c'est de transformer les mauvaises pensées en leur qualité opposée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bonnes pensées. Donc, c'est une transmutation, un travail à faire au niveau mental. Par exemple, transformer la haine en amour, la rancune en pardon, la jalousie en, en tolérance, etc., etc. Et c'est cette forme d'alchimie, hein, qu'il faut donner la priorité, car c'est d'elle que nous avons donc besoin pour maintenir la santé également de notre corps, parce que vous savez vraisemblablement que les pensées agissent directement sur la structure et la physiologie du corps.
D'accord. Donc nos pensées ont quand même un impact direct sur notre santé.
Absolument. Par exemple, on sait, hein, qu'une personne, même si elle est dans des conditions agréables, n'est pas entourée par exemple des germes, des microbes, etc. Eh bien, on sait que si cette personne est dans ces conditions et qu'elle entretient des pensées négatives, elle va finir par souffrir. Elle va finir par développer des maux divers, des pathologies, des maladies. Donc on voit bien l'impact que peuvent avoir les pensées sur l'harmonie du corps.
Ça me rappelle une interview avec un jeune qui avait déjà vécu et surmonté 7 cancers. Et qui gardait toujours cette espèce de mental à vouloir se dépasser, alors grimper sur telle montagne, faire ceci, cela. Et il me disait qu'à l'hôpital, souvent, il avait remarqué que les gens qui se plaignaient de leur maladie, c'était souvent ceux qui partaient le plus vite, quoi.
Absolument.
Qui avaient plus de mal à...
On a pu le vérifier, hein, que un bon moral permet d'améliorer l'efficacité même des thérapeutiques, hein. Il faut pas non plus considérer que tout est au niveau des pensées, hein. Donc il faut agir, comme je le disais tout à l'heure.
Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ça aide le traitement. Il faut quand même qu'il y ait le traitement.
Voilà.
Oui,
je parlais pas de. Il faut quand même prendre les traitements, bien entendu. Mais associer ce traitement, et ça vient de soi. D'ailleurs, travailler sur ses pensées et positiver, en fait. Et d'ailleurs, bien souvent, hein, dans les services hospitaliers, hein, qui traitent les maladies graves ou les maladies dégénératives ou cancéreuses même, on associe toujours la prise en charge psychologique, avec un soutien psychologique, hein, des personnes pour justement les aider à avoir une vision différente d'eux-mêmes et de leur corps.
Alors elle est mentale, cette alchimie, mais du coup là ce que vous dites, c'est qu'on arrive dans une dimension émotionnelle aussi.
Alors cette dimension, parce que bon, il est bien évident que l'homme est assez complexe, hein, l'humain est complexe, et vous n'êtes pas sans savoir que des sentiments basés par exemple sur des émotions telles que l'orgueil, la méchanceté, la colère, hein, nuisent considérablement à notre bien-être, non seulement émotionnel, mais également à notre équilibre physique. Et il y a un lien, hein, entre les pensées et les émotions. Avoir des pensées désagréables et négatives, donc, génère des émotions désagréables. Par ailleurs, des émotions désagréables provoquent des pensées négatives. Donc il y a un lien subtil entre les deux. La seule chose, c'est que les domaines dans lesquels on va dire se manifestent les pensées, les émotions sont différents. Par exemple, précisons que les pensées, c'est plutôt utilisent plutôt le système nerveux cérébro-spinal et le cerveau en particulier. Et pensées sont au niveau du cerveau, de la substance grise. Mais les émotions, elles agissent par l'intermédiaire du système nerveux autonome, le système nerveux avec ses deux divisions, orthosympathique et parasympathique. Donc vous voyez, on distingue les deux, émotions et pensées, tout simplement parce que, également, il y a les deux centres nerveux qui interagissent l'un sur l'autre et qui font justement cette dimension psychologique.
D'accord. On parle, l'autre fois, il y avait le professeur Raoult à la télé là, qui parlait des vaccins, des réactions et des effets placebo et nocebo. Il disait qu'on avait constaté que souvent on fait des réactions négatives aux médicaments ou aux vaccins quand on part avec des émotions négatives. Et ils constataient, ils disaient que d'après les études qu'ils avaient fait, il y avait à peu près 10% de personnes qui, dans ces cas-là, faisaient des réactions négatives, des douleurs, des effets secondaires qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils n'appréciaient pas. Mais souvent, ça partait de cette espèce d'émotion négative ou d'idées négatives ou de peur qu'on avait. Et ils avaient même réussi, en faisant des scanners ou je sais pas comment ça marche, hein, des IRM, à voir justement dans le cerveau à quel endroit ça se localisait, comment ça se répercutait le long de la moelle épinière, c'est ce que vous êtes un petit peu en train de dire, et comment ça crée des réactions dans le corps, des douleurs, des sensations.
Oui, tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a une interaction entre les pensées, les émotions et le corps physique, hein, entre le système nerveux cérébro-spinal, le système nerveux autonome, mais également le corps. Et il y a une interdépendance entre ces différents domaines. Et c'est la raison pour laquelle, justement, pour pouvoir agir de manière, donc, pour maintenir un bon état de santé, eh bien, il faut agir sur ces trois composantes. Mais on peut très bien, et si vous avez compris qu'il y avait une interaction entre les deux, donc agir entre les trois, on peut agir sur une dimension. C'est une porte d'entrée. Par exemple, au niveau de la pensée, hein, où, eh bien, c'est d'avoir des pensées positives, pratiquer, par exemple, la relaxation, la concentration sur des belles pensées, en lisant des beaux textes, de la poésie, par exemple, en écoutant des belles musiques inspirantes, etc. Eh bien, ça génère des belles pensées. Et ces pensées vont agir non seulement sur notre état émotionnel, on veut se sentir plus détendu, plus en paix avec soi-même. On va ressentir des émotions agréables, et également ressentir un bien-être au niveau physique. On va se sentir en meilleure forme, on va sentir peut-être moins de douleur. Pourquoi? Parce que au niveau du cerveau, il va y avoir la sécrétion d'un certain nombre de substances. Ce qu'on appelle les médiateurs du cerveau, tels que la dopamine, la sérotonine, qui sont des substances qui sont présentes au niveau du cerveau et qui vont nous permettre, par exemple dans la sérotonine, de voir la vie en rose, ou la dopamine, d'avoir ce sentiment de récompense. Et la sécrétion de ces substances va permettre au cerveau de mieux fonctionner. D'avoir donc des interrelations, des interactions entre les neurones qui seront améliorées. Et effectivement, comme vous le disiez, lorsque l'on fait des IRM fonctionnels, eh bien, on constate qu'il y a des zones du cerveau s'activent et d'autres qui se mettent en repos. Et si l'on compare le cerveau, par exemple, de personnes qui entretiennent des pensées positives, eh bien, on va voir que certaines zones sont actives et d'autres sont en sommeil, et que si l'on compare ce cerveau, cet IRM avec un cerveau, par exemple, d'une personne dépressive, on va voir que d'autres zones sont activées alors que d'autres sont en sommeil. Et lorsque l'on va prendre une autre personne qui va pratiquer au bout de quelque temps les pensées positives, de se mettre dans des conditions agréables, eh bien, il va y avoir une inversion. C'est-à-dire que les zones qui étaient activées chez les personnes dépressives vont se mettre en sommeil, et les zones qui étaient en activité chez la personne dépressive vont se mettre en sommeil chez l'autre personne. Donc, on voit que rien qu'avec certaines pratique de méditation, de relaxation, de méditation, hein, en pleine conscience, hein, sont très à la mode, eh bien, on constate qu'il y a une modification au niveau physique, visible sur les IRM.
Alors, on a parlé du mental, des émotions, mais comme on est avec nos amis de l'ordre de la Rose-Croix, il y a quand même une dimension spirituelle dans tout ça.
Alors, c'est vrai. Il ne faut pas la négliger non plus. Parce que c'est vrai que on peut considérer que le secret de la santé repose sur une bonne hygiène de la vie physique, donc un bon mental, donc des belles émotions, et pas négliger aussi le niveau socio-économique. Alors, c'est vrai qu'il est important hein, de ne pas négliger ce domaine, mais il concerne avant tout les soins que nous pouvons apporter à notre corps, à notre mental et à notre dimension émotionnelle. Mais de tels soins ne sont pas suffisants. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'homme, si je puis dire, tout simplement, l'homme a aussi une autre dimension, qui est une dimension spirituelle. Bon, on peut considérer que ce que l'homme est une dualité. Il est en fait une âme qui anime un corps. Et c'est la raison pour laquelle donc il y a un travail qui est fait au sein de l'URSSI, dans le domaine de la médecine en particulier, qui introduit cette dimension, qui introduit cette dimension spirituelle. Pourquoi ? Parce que on a constaté que parmi les causes fondamentales que nous trouvons à l'origine d'un grand nombre de maladies et de mal-être de la vie moderne, il importe d'évoquer le manque de spiritualité. Et beaucoup trop de personnes mènent une existence qui est basée sur les plaisirs du corps, sans avoir conscience qu'elles vivent uniquement en fonction des relations qui les unissent au monde matériel. Et ce faisant, elles négligent leur dimension spirituelle, c'est-à-dire leur âme. Et elles se privent, en fait, de cet influx, un générateur de cet influx réconfort, de cette énergie hein, donc que les Asiatiques ont appelé le ki ou le chi hein, dans certaines soit au Japon soit en Chine et les Rosicruciens l'appellent la force vitale donc c'est cette dimension spirituelle n'est pas à négliger. Parce que peut-être que c'est le levier sur lequel on peut agir pratiquement à tous les niveaux, c'est-à-dire le niveau émotionnel, le niveau mental et le niveau physique.
D'accord. On le voit, alors c'est un gros cliché, mais c'est vrai qu'à Lourdes, par exemple, il y a quand même des gens, il y a quand même des guérisons très étonnantes. Hein. C'est quand même lié aussi au spirituel, j'imagine, à la croyance qu'a la personne de l'acte qu'elle va accomplir en se mettant dans cette eau, en buvant de cette eau. Non, il y a quelque
tout
chose
à fait,
comme ça.
Tout à fait. Il ne faut pas le négliger.
On peut pas l'expliquer, mais ça existe, quoi.
Alors, on ne peut pas l'expliquer sur le plan. Si on reste simplement sur le plan scientifique, le plan, on va dire entre guillemets matériel ou physique. Mais ça peut s'expliquer en ayant une démarche spirituelle et en remettant donc au centre de nos préoccupations cette l'âme et les miracles dont on parle en fait ont des explications au niveau spirituel. En fait, il faut comprendre que finalement l'homme a le plus besoin, c'est de développer les vertus de l'âme. Et ces vertus, donc en relation avec les belles pensées, avec les belles émotions, eh bien, c'est la nourriture de l'âme. C'est cette énergie dont a besoin l'âme pour pouvoir se manifester de façon pleine et entière. Parmi ces vertus, il y a l'humilité, par exemple, la générosité, la tolérance, la bienveillance, la patience.
D'accord. Mais si on est quand même colérique et tout ça, faut pas trop s'en vouloir parce que du coup, on va rajouter du mal au mal. Donc, il faut arriver à inverser la tendance.
Voilà. nous sommes bien d'accord. Bien entendu. Alors, ces vertus, en fait, lorsqu'on les cite comme cela, comme ça, on a l'impression, voilà, il faut être honnête, il faut être tolérant, bienveillant, patient, etc. Mais en fait, c'est un équilibre. Ces vertus, c'est un équilibre entre les extrêmes. Donc, c'est vrai qu'être trop généreux, ça peut poser des problèmes. Ça peut entraîner, d'ailleurs, des déséquilibres. Être trop bienveillant également dans une situation conflictuelle risque de se retourner contre nous. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est là toute la difficulté justement de la maîtrise de l'alchimie donc dans ce domaine.
C'est un peu ce qu'on disait.
C'est la raison pour laquelle on a besoin donc d'entraînement, on a besoin de d'échanges, on a besoin d'un enseignement également qui va nous orienter donc sur la sur l'attitude, sur les connaissances dont nous avons besoin pour mettre en application cette discipline qui est très difficile.
Alors à un moment on a dit tout à l'heure c'est la dose qui fait le poison, mais enfin le dosage est important à tous les niveaux en fait.
Absolument.
Pas d'excès, pas trop peu quoi.
Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, là, en ce qui concerne donc l'alchimie, pour en revenir à cette image d'épinal que l'on a, la transformation du plomb en or, mais il y a une chose intéressante, c'est-à-dire que quand l'alchimiste transformait le plomb en or, il restait du plomb. Le plomb était toujours présent. Il disparaissait pas. Il était là, mais il avait une autre forme. Il prenait cette forme extérieure de l'or. C'est-à-dire que, vous voyez, donc, lorsque l'on dit, voilà, il faut être bienveillant, c'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, il faut quand même être un peu réactif, c'est-à-dire être vigilant. Cette interaction entre cette bienveillance et cette vigilance qui fait que eh bien nous atteignons cet état d'équilibre. Donc c'est pas supprimer complètement les choses négatives
les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, tout ça.
Voilà.
Pour conclure, on va dire que quand même cette alchimie, tous ces conseils, tout ce que vous nous expliquez là, ça peut quand même finir par transformer une maladie en santé, même s'il reste quelques traces de cette maladie. Ça aide.
Oui.
Sans oublier les médicaments, bien sûr.
Alors, rappelons quand même que, en fait, pour être relativement simple, et encore faut-il approfondir, que la santé c'est un état d'harmonie, la maladie c'est un état de disharmonie. Mais qu'est-ce que ça veut dire un état d'harmonie? Qu'est-ce que ça veut dire un état de disharmonie? Eh bien, un état d'harmonie, c'est l'harmonie au niveau physique, psychologique, mental et émotionnel et la dimension spirituelle. C'est ça qui permet cette interaction, comme des poupées russes qui sont les unes dans les autres. Et il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Par exemple, mettre de la spiritualité dans la matière, mais également de la matière dans la spiritualité. Ils sont interdépendants. On peut effectivement les portes d'entrée pour permettre d'atteindre cette harmonie, pour transcender cette disharmonie. Eh bien, ça peut être la dimension physique, matérielle, corporelle, la dimension mentale, la dimension émotionnelle et la dimension spirituelle.
Eh bien, je crois qu'on a fait un petit tour de la question parce que, à mon avis, quand vous faites une conférence sur le thème, ça doit durer un bon moment, quoi. On a pour une heure et demie, non, de discussion, là.
Ah, mais vous voulez que je vous dise beaucoup plus que ça?
Beaucoup plus.
Il faut une vie, oui.
Ah oui, okay. Ben là, on n'aura pas tout à fait le temps.
Je dirais même plus. Il faut plusieurs vies de maîtriser tous ces domaines.
D'accord, voilà, nous, on va s'arrêter là. On reviendra peut-être dans une autre vie sur le même sujet, si on est toujours là. Mais
avec grand plaisir.
En tous les cas, c'était hyper intéressant de découvrir cette approche de la santé et de l'alchimie en liant les deux. La transformation, quelque part. C'est quelque part aussi ce qui nous caractérise sur cette terre. C'est que tout se transforme, tout évolue tout le temps. Donc la transformation.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà.
L'alchimie est un peu toujours autour de nous, quoi. Docteur, merci beaucoup. Bonne continuation.
C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt. Au revoir.
Avec plaisir. Au revoir.